Est-ce que vous reconnaissez cette croix?
Royal.
Le Mont-Royal, eh oui. Certains d'entre vous n'y sont peut-être pas allés. Là. Mais on peut se promener dans le parc, sans, mais c'est difficile de la manquer, la croix. Elle est bien en vue et c'est volontaire. Volontairement qu'elle a été placée à cet endroit. On en trouve un peu partout dans le monde. Là. Si vous voyagez dans d'autres pays, vous allez en voir des croix. Certains ont coûté cher, c'est comme des gros monuments. D'autres, c'est des petites croix. Certains en ont sur leur terrain, leur propriété. Mais une partie de la population ne sait pas qu'est-ce qu'elle représente. Bon, vous êtes majoritairement chrétien, vous savez qu'est-ce qu'elle représente. Parfois, elle est mal utilisée. Des gens vont se prosterner devant elle comme si elle était un objet sacré ou une représentation d'un dieu. En fait, elle est un symbole. Il y a beaucoup de symboles dans les religions du monde. Peut-être vous reconnaissez cela. Le symbole de l'islam. Celui-ci, c'est l'hindouisme. Ce qui n'est pas très loin de ça, c'est le bouddhisme. Mais le bouddhisme a une foule de symboles aussi. Là. Le taoïste est aussi une religion orientale. Celle-ci, un peu plus proche de nous, ben ouais, c'est le judaïsme. Puis notre symbole, c'est la croix. Un symbole tout simple. Et on va voir que c'est quand même rempli de signification. Pourquoi tant de symboles, tant de religions dans le monde? C'est que la Bible dit « Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » L'œuvre de Dieu nous dépasse, mais dans le cœur de chaque être humain, Dieu a placé la pensée de l'éternité. On sait d'une manière intuitive que le temps est plus long que simplement la période de notre existence. À la différence des animaux, l'être humain a cette pensée-là. Il y a quelque chose de plus grand, d'infini, d'éternel. C'est pour ça qu'on trouve dans toutes les cultures du monde l'adoration où on vénère un dieu ou une force quelconque. Les cieux racontent la gloire de Dieu. On n'a qu'à observer les cieux et on se rend compte. Il y a un dieu qui existe. L'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Dans le psaume 19, tout homme sait simplement en levant les yeux. Bien, c'est plus facile quand on va à la campagne, on voit une foule d'étoiles. Vous avez peut-être déjà vu ça au camp des Bouleaux, en haut de la montagne, en haut de la colline. Les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire les qualités de Dieu qu'on ne peut pas voir, comme sa puissance éternelle, sa divinité, ce sont des perfections invisibles. Mais ces perfections-là se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire dans la création. On n'a qu'à observer la nature et on apprend à connaître ce Dieu-là. Donc, Dieu s'est révélé à travers sa création, à travers la nature que l'on peut observer. Il révèle sa personne à tous les peuples, à tous les hommes et les femmes sur la terre. Par exemple, en observant ce qui est très grand, on a une idée de sa puissance. Instinctivement, lorsqu'on regarde les montagnes, ceci, c'est parmi les montagnes les plus hautes au monde. On sait qu'il y a un être puissant qui a fait ça. C'est une grandeur qui nous dépasse. On en apprend sur l'infinie puissance de Dieu en regardant ce qui est très grand. Et aussi, avec la technologie, aujourd'hui, on peut regarder ce qui est très minuscule et se rendre compte que c'est extrêmement complexe. Il y a toute une puissance dans ce qui est microscopique qui nous dépasse aussi. On peut aussi prendre conscience de la puissance de Dieu dans les forces de la nature. On essaie de contrôler notre environnement, de protéger, mais les forces de la nature nous dépassent. On est toujours sujet à ce qui va se passer sur la planète Terre et on n'est pas capable de contrôler notre environnement. Ça nous rappelle ça, la puissance de Dieu. On peut prendre connaissance de la bonté de Dieu, le fait qu'il est un Dieu bon dans les provisions qu'il donne pour la vie de tout être animal, mais aussi pour la vie des êtres humains. Jésus a dit, « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les bons comme les méchants, les hommes partout sur la planète peuvent survivre. Bon, » il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, mais on voit la bonté de Dieu envers les êtres humains. On peut apprendre cela aussi, simplement en observant. Il est dit dans Actes, « Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Le simple fait qu'on peut être heureux, on peut avoir un bonheur, qu'on peut se sentir comblé, c'est un bienfait de Dieu. Et il faut volontairement se fermer les yeux pour ne pas comprendre que cela vient de Dieu. Une autre qualité de Dieu qui est dans son souci des détails, son intelligence qui nous dépasse, sa signature en tant que créateur. Si vous remarquez ici, c'est un cœur de tournesol. Si vous remarquez au milieu, ça forme des espèces de spirales. Puis ceux qui sont familiers avec les mathématiques, il y a un nombre derrière ça, c'est le nombre phi. On peut, en utilisant ce nombre-là, dessiner une spirale qui va être exactement identique à celle d'un tournesol. Mais ce n'est pas un hasard, il y a une formule mathématique derrière cela, ça a été pensé. Mais cette même formule se retrouve dans une foule de choses. Par exemple, une cocotte de pain, vous remarquez la même forme. C'est encore la signature. Dans un coquillage, c'est exactement les mêmes proportions, le même ratio. Ça ne peut pas être un hasard. Dans des choses plus grosses encore, un ouragan, c'est exactement le même ratio. Et encore plus gros, infiniment plus gros, une galaxie. Mais c'est la même formule mathématique qu'il y a derrière cela. C'est seulement un exemple. On voit la signature de Dieu derrière cela, plus on étudie. Et en observant, on a le bonheur d'avoir des télescopes et on peut voir plus loin que simplement l'atmosphère. Et on a une idée de la grandeur de Dieu, sa grandeur infinie. Sans même que Dieu nous l'ait dit, juste en observant, on voit bien que l'être qui a fait cela est d'une grandeur infinie. Et bien sûr, on a une idée de sa divinité. Ça ne peut qu'être Dieu. Mais Dieu s'est non seulement révélé dans sa nature, il a aussi daigné nous donner sa parole, la Bible, où il se révèle. Il se révèle comme étant réellement le Créateur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait rien avant. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon son espèce et ayant en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, et pour éclairer la terre. Dieu révèle que s'il a mis les astres dans le ciel, c'est pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Puis Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, les animaux terrestres, chacun selon son espèce. Et il en fut ainsi, comme l'Éternel le dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Il en fut ainsi. Et Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. À chaque étape de sa création, Dieu a dit que c'était bon, c'était une bonne chose. Et quand il a eu tout terminé et qu'il a mis le morceau du puzzle, le dernier, la pièce ultime qui est l'être humain, l'homme et la femme, c'était le chef-d'œuvre de sa création. Et là, il a dit que c'était très bon. Donc, l'homme a été placé sur la terre pour vivre heureux. C'est un paradis. Et en plus, Dieu était en relation avec sa créature. Le Créateur, dès le début, agissait comme un père envers ses enfants. L'homme et la femme étaient comme ses fils. Et la relation qu'il voulait avoir avec eux devait durer éternellement. Et c'était un bonheur. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on ressent aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il de la souffrance, la maladie, la mort dans le monde? Si Dieu a créé quelque chose qui est très bon, comment ça se fait que toutes ces formes de souffrance? Pourquoi la guerre? Pourquoi tant de morts? Pourquoi il n'y a presque jamais eu de temps de paix dans toute l'histoire de l'humanité? Pourquoi Dieu permet tout cela? Mais la Bible le dit, en parlant des hommes, ils sont inexcusables. On ne peut pas mettre la faute sur Dieu. On ne peut pas blâmer Dieu pour ce qui arrive. Les hommes sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Après avoir connu, de toute évidence, que Dieu est grand et bon et tout-puissant, infiniment intelligent, qu'il est un Dieu à craindre, et de toute évidence, c'est lui qui a conçu tout cela. Il est le Créateur. Tout être humain le sait de manière naturelle que Dieu est son Créateur, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce. C'est une tendance naturelle qu'on a chez nous de se détourner du vrai Dieu. C'est ce qui explique la foule de religions qu'il y a à travers le monde, la foule de philosophies qui nient l'existence de Dieu le Créateur. Ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres parce que le mal s'est introduit dans le monde à cause du péché de l'être humain. Le cœur est devenu mauvais. On est entré dans un cycle où les enfants sont aussi mauvais que leurs parents et ça se perpétue comme un héritage. À cause de cela, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle est cette vérité? Que Dieu est notre Créateur et qu'il est le seul qui est digne d'être adoré et d'être vénéré. On retient cette vérité-là, on la cache en dessous d'un tapis, et même on dit aux gens que Dieu n'existe pas. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images. Au lieu d'adorer le Dieu incorruptible, parfait, saint, ils l'ont remplacé par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Non seulement Dieu permet que l'homme continue d'être dans le mal, mais en plus, il le condamne à cela. Il plonge l'être humain dans le mal que lui-même désire. Et l'être humain se déshonore lui-même. Il se déshonore en tant que créature faite à l'image de Dieu. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On voit le soleil et on veut adorer le soleil. On voit un aigle et on veut adorer l'aigle. On voit l'être humain, on en voit qui sont plus forts que d'autres et on veut les adorer. On en fait des dieux au lieu d'adorer le Créateur. C'est qui ça? Il, c'est nous tous. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Beaucoup aimeraient se rendre dans la lumière à droite, non? Dans la présence de Dieu, dans la gloire. Mais on a beau construire les ponts aussi longs qu'on veut, essayer de changer notre vie, on ne l'atteindra jamais. C'est inaccessible. Parce que tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. C'est ce qui attend tout être humain à cause de son péché, après la mort, c'est d'être privé de la gloire de Dieu, de ne pas pouvoir rencontrer son Créateur. Mais Dieu est amour. Et voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est le Créateur qui a envoyé son propre Fils dans sa création. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Le Fils de Dieu est devenu un homme, un être humain. Mais dépouillé de tous ses honneurs, de tous les droits qu'il avait. Il est né d'une manière humble. Sa mère l'a couché dans une crèche pour animaux. Et il a grandi d'une manière humble, obéissant à ses parents. D'un père humble, travaillant, charpentier. Probablement que Jésus a été charpentier lui aussi. Jusqu'au jour de son ministère, où il a enseigné aux foules, il s'est donné corps et âme, il s'est dévoué pour enseigner, pour annoncer cette bonne nouvelle, mais avertir aussi de la colère de Dieu. Avertir que le salaire du péché, c'est la mort. Il est intervenu pour faire du bien aux gens, pour guérir de manière miraculeuse, pour nourrir aussi de manière miraculeuse. Il a même marché sur les eaux. Et il a pris le temps de former des disciples pour qu'après son temps sur la terre, que son Église puisse être implantée. Mais il était humble dans tout cela. Même si ses disciples le suivaient, il a montré l'exemple en étant humble, modeste, serviteur de tous. Et il s'est abaissé jusqu'à laver les pieds. Mais tout cela aurait été inutile s'il n'avait pas accompli sa mission première. Sa mission première, c'était la croix. C'est pas pour rien que c'est devenu notre symbole. Notre symbole, c'est pas des pieds qui sont en train d'être lavés, ou des pains qui sont en train d'être multipliés. Notre symbole en tant que chrétien, c'est la croix. C'était sa mission première. Tout le reste allait avec la croix. S'il n'y avait pas eu la croix, rien n'aurait servi à quoi que ce soit. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui est insulté ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été trahi par l'un de ceux qu'il formait. Mais tout cela était volontaire. Éphésiens nous dit, le Christ nous a aimés et il s'est livré lui-même. À de nombreuses reprises pendant son ministère, les gens voulaient l'arrêter, le saisir. Il aurait pu être mis à mort plusieurs fois. Mais Jésus se sauvait, réussissait à s'en aller. C'était si ce jour-là, Jésus n'avait pas voulu, n'avait pas accepté d'être saisi, personne n'aurait pu le saisir. Il s'est offert volontairement. Il s'est livré. Et il a été arrêté comme un vaurien, un criminel. On est venu avec un grand groupe pour le saisir, alors qu'il ne s'enfuyait même pas. Il a subi un semblant de procès, sans aucune preuve. Ésaïe avait prophétisé en disant, « Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. » Même Pilate s'est étonné de voir que Jésus avait si peu de désir de sauver sa vie. On s'est saisi de lui, on l'a condamné sans preuve, on s'est moqué de lui. On l'a battu, flagellé. On lui a mis une couronne, parce que ses disciples l'appelaient roi. Pour se moquer de lui, on lui a mis une couronne, mais une couronne d'épines. Les épines qui entrent dans la tête, ça devait être une souffrance terrible. On fait juste s'arracher un cheveu, puis on verse des larmes. Et penser à des aiguilles. Et en plus, on sait que le texte nous dit que les soldats romains ont pris une branche de roseau et ils lui tapaient sur la tête. En continuant de se moquer de lui. On l'a forcé à porter sa croix. Alors qu'il s'en allait vers le lieu de sa mort, on continuait de le torturer. Pour l'accrocher sur la croix, c'était des clous plantés dans les mains, dans les pieds aussi. La crucifixion n'était pas seulement qu'une peine de mort. C'était une manière d'humilier vraiment le condamné et le faire souffrir. Et si ça pouvait s'étirer pendant de longues heures, c'était tant mieux. Et il souffrait l'agonie devant tous qui pouvaient se moquer de lui. Il n'y avait pas pire châtiment. C'était le summum de la cruauté, une invention du peuple païen. Et les Juifs l'ont condamné à cela. C'était volontairement une manière de souffrir que d'être cloué sur une croix. Il reposait sur des clous. Donc, la douleur était terrible. S'il voulait soulager un peu les poignets, il fallait qu'il pousse avec ses pieds, mais là, la douleur était transférée aux pieds. À un moment donné, il ne pouvait plus supporter cela. Il remettait son poids sur les poignets. Mais lorsque le poids était sur les bras, ça empêchait le crucifié de respirer convenablement. Il s'étouffait. Il s'asphyxiait lui-même. Donc, après un certain temps, manquant d'air, par instinct de survie, il repoussait avec ses pieds, qui relâchait encore une dose de douleur effroyable. Et c'était un cycle comme ça, jusqu'à ce que les forces s'épuisent et que la personne meure. Jésus est quand même mort assez rapidement, mais il a souffert l'agonie plusieurs heures. Et au moment où il est mort, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre, et là, le peuple a su que Dieu était en colère. Dieu venait de déverser sa colère sur son propre Fils parce qu'il portait nos péchés sur ses épaules. Mais il a été en colère face au peuple, face aux nations qui l'ont crucifié. Lui-même qui a fourni la solution, qui a envoyé son prophète dans le monde, ils l'ont rejeté et ils l'ont tué. Mais ce n'est pas pour rien qu'on célèbre la mémoire de la mort de Jésus parce que c'était un événement, en un sens, heureux. Dieu a utilisé ce grand mal pour faire un grand bien. Ceux dont Jésus a porté les péchés sur ses épaules sont en paix maintenant avec Dieu. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, pas à cause des siennes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu qui fait que le Créateur n'est plus en colère envers sa créature. Mais pour cela, un châtiment devait avoir lieu, et ce châtiment est tombé sur lui, sur Jésus, a été concentré sur lui. Et c'est par les meurtrissures que Jésus a subies que nous pouvons être guéris. Mais dans deux jours, on va célébrer l'événement qui a eu lieu dans le troisième jour, la résurrection de Jésus. Il n'est pas resté dans la tombe. C'était le Créateur lui-même venu sur terre. Il ne pouvait pas rester pris dans les liens de la mort. Il était plus puissant que la mort. Et il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Une foule de témoins l'ont vu. Et nous avons même les écrits dans la Bible qui nous font un rapport de quelque événement après sa résurrection. Et nous savons qu'il est remonté aux cieux devant les yeux de ses disciples, tout ébahis. Il est monté, il a dit qu'un jour il reviendrait de la même manière, sur les nuées. Et présentement, il règne, il est au ciel, à la droite de son Père, et il est bel et bien vivant. Des gens à travers le monde tentent encore de construire des ponts pour essayer d'atteindre Dieu. Parfois, ils renient le Créateur, mais instinctivement, ils essaient de trouver quelque chose pour s'élever au rang de la divinité sans y parvenir. Mais à cause de la mort de Christ, maintenant, il y a un pont. Et c'est un pont assuré. Ce n'est pas tous qui l'empruntent, mais tous ceux qui l'empruntent sont sûrs à 100% de se rendre à la destination. Et c'est le seul pont. Tous les autres qui sont construits, aussi loin qu'ils peuvent se rendre, c'est très loin d'atteindre Dieu. Et le résultat est le même. Tous périront. Mais tous ceux qui passent sur ce pont qui a été ouvert par Jésus, qui est Jésus lui-même, sont sûrs d'arriver parvenir à Dieu. Au point où la Bible nous dit qu'ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà parvenus. Cela, c'est possible en se souvenant de la croix. Seulement, on peut croire que le Créateur existe. Mais c'est seulement en croyant à ce qui s'est passé sur la croix que l'on entre sur ce chemin. On peut croire à une foule de choses, on peut croire à plusieurs passages de la Bible, mais si on ne croit pas à ce qui s'est passé sur la croix, si on n'a pas la foi en cela, on ne peut pas être sauvé. C'est par la grâce, en effet, c'est un cadeau du Créateur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il n'y a pas 50 moyens, il y en a un seul. C'est de croire à cela, la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous imaginez si quelqu'un, à quelque part, pouvait réussir à construire un pont qui mène à Dieu, comment il se glorifierait? Dieu ne veut pas cela. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre manière de vivre qu'on peut être sauvé. Ce n'est pas par les bons choix que l'on fait. Ce n'est pas en se rachetant les fautes du passé. C'est seulement en empruntant le chemin de Jésus. En reconnaissant qu'il a payé à notre place. Tant qu'on va essayer de payer par nous-mêmes nos fautes, on n'y arrivera jamais et on ne va jamais atteindre Dieu. Mais quand on va comprendre que Jésus est mort à notre place, qu'il a porté nos péchés sur ses épaules, que notre dette peut être amenée à zéro si on croit à cela. Mais tant qu'on ne croira pas à cela, on ne pourra pas être sauvé. Et celui qui est sauvé est tellement reconnaissant qu'il veut suivre Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, « La croix que j'ai subie, là, c'est à vous aussi de la subir. Portez votre croix comme je l'ai portée. Suivez-moi. Non pas pour gagner votre ciel, mais parce que vous l'avez déjà gagné. Non pas pour trouver le chemin, mais parce que vous êtes déjà sur le chemin. Portez votre croix jusqu'à la fin. Persévérez. » Et Jésus dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps, et vos souffrances seront mes souffrances. » Jésus au ciel n'est pas inactif en nous attendant. Il souffre avec nous. Lorsque nous sommes malades, il souffre avec nous. Lorsque nous pleurons un décès, il pleure lui aussi. C'est notre frère qui souffre avec nous. C'est ce que symbolise la croix. N'est-ce pas le plus beau symbole qui existe? La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens du monde croient que c'est la chose la plus ridicule. Lorsqu'on lit le mode d'emploi des différentes religions dans le monde, on se rend compte que c'est très complexe. Ça prend des années pour essayer de comprendre la base du bouddhisme. Le christianisme, c'est tout simple. Et ça semble une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pour ça que nos yeux doivent constamment retourner à la croix. C'est là la seule source de la puissance. C'est une puissance de Dieu, du Dieu infiniment grand, du Créateur. C'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette même puissance est disponible pour nous, pour persévérer, pour vaincre le péché dans nos vies, vaincre la crainte des hommes et annoncer cette bonne nouvelle. Prions un instant. Seigneur Dieu, c'est toi que nous adorons, le Créateur de l'univers. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Trop souvent, nous adorons le monde, la créature, ou nous nous adorons nous-mêmes en retombant dans l'idolâtrie. Dirige nos cœurs à nouveau vers toi, vers le seul Créateur. Permet qu'on n'oublie jamais à chaque jour de notre vie la seule chose qui a une valeur pour nous pour l'éternité, c'est la mort de ton Fils Jésus à la croix. Garde nos yeux constamment sur la croix, qu'on se souvienne du sacrifice énorme que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, merci de t'être livré toi-même, d'avoir subi la moquerie, l'injustice, les souffrances, le rejet de ton propre peuple, d'avoir subi des souffrances qu'aucun homme n'aurait été prêt à subir. Merci d'avoir fait cela pour nous. Aide-nous à nous montrer reconnaissants. Seigneur Dieu, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur, leur Seigneur. Nous te prions de toucher leur cœur, de leur faire prendre conscience qu'ils sont pécheurs, mais que leurs péchés peuvent être effacés par la mort de ton Fils en croyant à cela. Donne-leur la foi. Donne-leur la foi par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.